À la veille du Second Empire, puisque Murger l'écrit sous Louis-Philippe, ces scènes de vie de bohème. Et comment est venu, est-ce que c'est d'abord l'opéra ou est-ce que c'est la lecture ou le souvenir des scènes de vie de bohème?
Alors c'est pas la lecture de Murger parce que je l'ai lu plus tard. C'est avant tout ma relation à Puccini qui est une relation d'admiration folle. Et c'est des choses aussi simples que ça au départ, hein. Il faut bien le reconnaître. Après la découverte qu'on a faite avec Bastien, c'est que on pensait aussi que cette bohème parlait de la vie artistique et de qu'est-ce que c'est que d'être un jeune artiste, qu'est-ce que c'est que d'être un artiste totalement en devenir. Enfin, chaque artiste est toujours en devenir, mais là totalement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de passé, ils n'ont pas d'existence artistique, ils n'ont pas d'œuvre. Et pourtant, le potentiel est là. Qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que ça va être le néant ou est-ce que ça va devenir une œuvre? Ils sont à ce moment stratégique où les intuitions sont là, mais où il n'y a pas d'œuvre. Et l'autre chose qu'on a découverte avec Bastien, c'est que, comme d'habitude, comme son habitude, Puccini ne traite pas le décor dans lequel il met ses histoires. C'est-à-dire que la création artistique en tant que telle n'est pas traitée par Puccini, alors qu'elle l'est davantage chez Murger. Et on s'est rendu compte qu'il ne restait qu'une seule chose, c'est l'intensité des sentiments et sans doute la perte de la jeunesse qui est liée à ce premier amour naissant, amour charnel, amour essentiellement charnel, je pense. Et c'est d'ailleurs là aussi un sujet d'intérêt pour nous, c'est-à-dire qu'on est à mi-chemin entre cet éveil des sens, enfin c'est plus que l'éveil des sens, parce qu'on est après l'adolescence. Mais non, cette intensité presque hormonale de l'attirance charnelle qui, à mon avis, fait concurrence à l'ambition artistique. Ils ne sont pas clairs de ce point de vue-là. Et il y a des phrases assez drôles, des boutades chez Murger qui dit « Je m'intéresse plus à l'or qu'à l'art. » L'or, L-A-U-R-E. Je ne retrouve pas la formule exacte, mais elle est assez sympathiquement comique comme ça. Et eh bien, encore une honnêteté, je crois que c'est exactement ce que j'ai vécu quand j'avais 20 ans.
J'ai relu récemment, j'ai vu un hommage de Phil Gautier à la veille de sa mort, parce qu'en fait, il est mort jeune, en fait, relativement jeune, qu'il est resté toujours dans la jeunesse, et dans cette nostalgie de ce moment de la jeunesse, de ce moment perdu. Il n'a pas écrit beaucoup de livres, en fait, il a écrit ses scènes de vie de bohème, et puis un recueil de poésie, seulement ce recueil de poésie qu'il commente et qui est publié quasiment après sa mort. Il fait partie des cavaliers servants du romantisme qui définissent un nouveau rapport à l'art.
Oui, quel serait ce rapport, selon vous?
C'est le sujet qui définit les règles. On va sortir du modèle classique où vous avez des académies, des institutions qui définissent des règles et que vous reproduisez un rapport de mimétisme et après peut-être vous contestez le principe de l'art moderne qu'on voit avec Delacroix et toute cette génération, aussi bien des poètes. Ils fondent. Ils sont d'abord des fondateurs. C'est une notion d'autoréférence qui va dominer, même aussi avec l'impressionnisme. Je crois que c'est cela qui est très très important, c'est que le sujet devient le sujet créateur et fondateur de la loi.
Et alors là, ça nous rapproche peut-être du concept d'écriture que j'ai mis en place, c'est-à-dire que pour moi, ce qu'on appelle classiquement et disons de manière un petit peu primaire, l'inspiration vient du modèle. J'ai lu des phrases de Matisse qui vont exactement dans ce sens-là, c'est-à-dire que Matisse était bien que fondateur d'un nouveau langage pictural, était tout à fait certain que les trois quarts de son inspiration venaient du modèle. Et donc la vision qu'on a du modèle, c'est pratiquement toute l'écriture.
Et ça implique quoi en fait, la notion de modèle?
Alors pour moi, ça implique deux choses. D'abord, d'être mieux compris d'un public plus mélangé, et j'y tiens beaucoup parce que je n'écris pas pour des spécialistes. Et d'autre part, ça permet aussi une très grande liberté stylistique et même formelle, puisque à partir du moment où on a un modèle, toutes les fantasmagories sont possibles. Et les digressions aussi peuvent être très importantes, du fait même qu'on est rattaché à ce modèle commun, loin d'être seulement une contrainte, et je crois à la contrainte en art, hein, je pense qu'elle est nécessaire, mais c'est aussi une libération. Et c'est pourquoi je pense que notre projet avec Guillaume Vincent et Bastien Gallet est un projet très libre, qui n'appartient plus à la forme opératique à proprement parler, qui intègre un certain nombre des préoccupations de l'art contemporain en général, même des arts visuels. Je pense à Prince, à Warhol, à d'autres encore, qui évidemment sont comme moi dans des préoccupations qui sont celles de l'appropriation. Et tout ça aussi, je pense, vient assez directement du Duchamp finalement. C'est-à-dire, c'est peut-être pas exactement de l'ordre du ready-made, mais c'est la continuation du Duchamp chez Warhol, par exemple, et avec ce paradoxe qui, moi, m'enchante, par exemple, de cette grande firme de sauce tomate américaine qui appelle Warhol pour récupérer ses dessins qui, eux-mêmes, s'était approprié la publicité en question. C'est-à-dire que la reproduction et l'appropriation par Warhol de cette publicité devient plus vraie que nature, devient plus signifiante que le simple projet commercial. Redevient un projet commercial lui-même, enfin, c'est ce qui est assez fou et révélateur de notre époque.
Mais où est l'originalité? Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à ce fait où tout le monde reconnaît, bien sûr, tous les éléments qui constituent le spectacle, mais il pose tout de suite la question à l'artiste, quelle est votre originalité en cela?
Alors, évidemment, c'est l'attaque que j'entends plus souvent, disons, de la part quand même, à mon avis, d'un point de vue assez réactionnaire. Parce que, encore une fois, c'est façons de travailler appartiennent à notre époque, ne sont pas forcément si novatrices que ça, et existent depuis les héritiers de Duchamp, hein, je le redis encore une fois. Donc j'ai pas l'impression d'être tout à fait, disons, déstabilisant de ce point de vue-là, en tout cas pour les gens qui connaissent un petit peu l'histoire de l'art depuis l'après-guerre. Donc par contre, ce qui est vrai, c'est que, comme toujours, la musique a un certain retard par rapport à la littérature et par rapport aux arts plastiques. Ça a toujours été vrai et ça l'est encore. Et on continue à faire des sous-produits du Lulu de Berg régulièrement et ça ne progresse pas. Je crois qu'on a définitivement rompu avec ça et que la musique en a besoin. La production culturelle en général en a besoin parce que la musique, ça peut paraître un peu prétentieux de dire les choses comme ça. Mais je pense en tout cas que les institutions ont besoin de produire d'autres choses que ces objets-là qui sont complètement fanés, qui n'ont plus aucun sens, même quand ils sont parfaitement bien faits. Et on peut continuer à faire des chefs-d'œuvre académiques post-berguin, mais sur le plan artistique, ça reste quand même une forte déception et peut-être un non-sens. Donc peut-être notre mérite, ça serait tout simplement, sans être si révolutionnaire que ça, hein. Il faudrait employer un autre mot que révolutionnaire, mais disons, sans être si déstabilisateur que ça, je pense tout simplement qu'on intègre très naturellement des notions qui sont déjà fortement établies dans les autres arts.
Mais Offenbach joue aussi sur les codes, prend un matériau, c'est en même temps la naissance de la publicité, ne l'oublions pas, Offenbach arrive à ce moment-là et utilise tous les éléments du spectaculaire et les détourne. C'est plutôt du côté de la blague.
Oui, comme quoi on peut être conceptuellement très proche et donner une orientation très légère à un concept assez fort ou au contraire une connotation plus lié à l'histoire de l'opéra, par exemple. Mais effectivement, votre exemple est très bon et je trouve que, disons, le brio intellectuel de Offenbach, et il est justement là.